Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
La crise du monothélisme et le concile de Constantinople III. Les événements qui aboutissent au troisième concile de Constantinople vont mettre en lumière un changement de perspective dans la théologie du Christ, la christologie. Jusque-là, en effet, on a surtout cherché à comprendre qui était le Christ et comment s'articuler en lui sa divinité et son humanité. Maintenant, on va s'interroger sur ce qu'il a fait et se demander comment sa divinité et son humanité sont ensemble à l'œuvre dans ses actions, sans confusion ni séparation, pour reprendre la formule de Chalcédoine. Cette perspective nouvelle va diriger les regards vers l'histoire humaine de Jésus. Que se passe-t-il au juste dans cette histoire, et quel en est l'enjeu pour notre salut? Autant dire que ceux d'entre nos auditeurs qui trouvaient peut-être un peu trop abstraites les considérations des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, et de Constantinople II, vont retrouver maintenant un terrain plus concret où l'on reparlera de l'Évangile. Mais nous verrons aussi à quel point les distinctions opérées, en particulier par Chalcédoine, sont éclairantes pour comprendre ce qui se joue dans l'histoire humaine de Jésus, et en particulier dans le drame de la Passion. Comme l'a écrit très justement Bernard Cesbouet, la solution donnée se présente comme une vérification et une interprétation de la définition de Chalcédoine à l'aide du témoignage de l'Écriture. Avant de définir ce qu'on appelle le monothélisme, il faut rappeler que la toile de fond de la crise du 7e siècle est toujours la même. C'est la préoccupation obsessionnelle de refaire l'unité de l'Église dans un empire menacé de toutes parts, en arrivant à un compromis avec les monophysites, c'est-à-dire en leur faisant des concessions sur l'unité du Christ. À l'époque de Justinien, on avait pensé y parvenir avec la condamnation à Constantinople II de théologiens morts depuis longtemps en paix avec l'Église, les fameux trois chapitres, et avec un portrait du Christ trop divin en tous ses actes pour être aussi intégralement humain. À titre d'exemple, le théologien anti-nestorien Léonce de Jérusalem, se posant la difficile question de savoir si le Christ aurait pu pécher, répond que non, et en cela il a raison, mais il justifie sa réponse en disant que la liberté du Christ est entièrement divine, et en cela il a tort, car le Christ ne serait pas vraiment homme s'il n'avait pas une liberté humaine. C'est en fait sur cette question de la liberté humaine du Christ que le débat va se cristalliser. Comme nous l'avons vu, l'empereur Héraclius était puissamment soutenu par le patriarche Sergius de Constantinople, qui était entré en fonction l'année même de l'avènement d'Héraclius et qui devait mourir en 638, trois ans avant lui. Sergius avait couronné Héraclius, il avait célébré ses deux mariages successifs, il l'avait dissuadé de prendre la fuite à Carthage en 618, il avait assuré la continuité du pouvoir et protéger le jeune fils d'Héraclius pendant que celui-ci guerroyait contre les Perses. Il avait raffermi le courage du peuple quand les Slaves et les Avars arrivaient aux portes de Constantinople, faisant porter en procession l'icône de la Mère de Dieu sur les murailles et dans les murs de la ville, et composant le célèbre hymne akatiste. Il avait renfloué le trésor impérial et soutenu l'effort de guerre en faisant fondre les vases sacrés de Sainte-Sophie. Mais c'est avant tout sur le plan théologique que Sergius déployait l'activité la plus intense en jouissant de la confiance d'Héraclius. Dès 619, pour rallier les monophysites, il propose une doctrine selon laquelle, après l'incarnation, le Christ n'avait pas deux volontés ni deux énergies, deux principes d'action, mais seulement une volonté et une énergie. C'était un premier pas dans une dérive qui séduisait les monophysites, mais qui conduisait à l'hérésie. Dans un premier temps, Honorius choisit de calmer le jeu en interdisant tout débat sur l'unique énergie ou les deux énergies dans le Christ. Mais en 638, l'année même de la mort de Serge, Honorius change d'avis. Plus convaincu que jamais que devant les invasions barbares qui menaçaient d'engloutir toutes ces provinces orientales, seule l'unité religieuse pouvait sauver l'Empire, changeant de terrain théologique, il abandonne le mono-énergisme, de plus en plus discrédité, pour adopter une nouvelle doctrine qui affirme que bien que le Christ ait deux natures il n'a qu'une seule volonté. Par un édit connu sous le titre d'Ecthèse en 638, l'empereur essaie d'imposer le monothélisme à toute l'Église. Dès ce moment, l'hérésie monothélite est née. Le monothélisme, qui succède au monoénergisme et en déploie les conséquences, c'est le fait de ne reconnaître qu'une seule volonté dans le Christ, la volonté divine. Mais ces efforts en direction des monophysites ne seront pas couronnés de succès politique, car dans les territoires où ils dominent, ils continueront à accueillir favorablement les conquérants musulmans, dont l'avancée se poursuivra. C'est pourquoi un scénario déjà connu se reproduit après la mort d'Héraclius. Son petit-fils et deuxième successeur, Constant II, révoque l'Ecthèse en 648, et dans une déclaration appelée Typos, il interdit à son tour toute discussion sur la question des volontés dans le Christ. C'est alors qu'entre en scène le pape Martin Ier, élu en 649. À la différence de son prédécesseur Honorius, qui avait penché vers le monothélisme, il s'oppose fermement à cette hérésie. Il réunit un synode au Latran, avec la collaboration du moine oriental Maxime le Confesseur, qui avait réussi en 645, dans un débat contradictoire, à faire revenir le successeur de Serge, Pyrrhus, vers l'orthodoxie. Le concile du Latran, à Rome donc, se tient en octobre 649 et condamne sans équivoque le monothélisme. Mais les représailles seront féroces. Le pape Martin, d'abord protégé par une révolte contre l'empereur byzantin, sera finalement arrêté en 653 par les Byzantins et transféré à Constantinople, où, après de mauvais traitements et une mascarade de procès, il sera d'abord condamné à mort, puis à l'exil en Crimée, où il mourra en 655 ou 656. Quant à Maxime, qui avait résisté lui aussi à toutes les tentatives pour lui faire accepter l'hérésie, après lui avoir coupé la main pour l'empêcher d'écrire et la langue pour l'empêcher de parler, on l'exilera en Géorgie, où il mourra à son tour en 662, ayant bien mérité son surnom de « confesseur ». Cependant, Constantin IV, arrivé au pouvoir en 668 à la mort de son père Constant II, comprend que la politique d'imposition du monothélisme mène à l'impasse. Après être parvenu à repousser les musulmans qui assaillaient Constantinople, il convoque avec l'approbation du nouveau pape Agathon un concile qui se tiendra à Constantinople de novembre 680 à septembre 681 dans la salle de la coupole, trullos en grec, du palais impérial, et qui pour cette raison restera dans l'histoire sous le nom de concile in trullo, sous la coupole. C'est le troisième concile de Constantinople et le sixième dans la liste des conciles écuméniques. Constantinople III est un des très grands conciles de l'histoire de l'Église, aussi important que Chalcédoine, dont il tire les conséquences pour l'agir du Christ. En 649, le concile du Latran avait préparé le terrain en déclarant ce qui suit, je cite, « De même que nous confessons les deux natures du Christ unies sans confusion ni division, de même, conformément aux natures, nous affirmons deux volontés, la divine et l'humaine, ainsi que deux opérations naturelles, la divine et l'humaine, cela pour confirmer parfaitement et sans omission que le même et unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, est vraiment par nature Dieu parfait et homme parfait, à l'exception du seul péché, et qu'ainsi il voulait et opérait en même temps divinement et humainement notre salut. » On est frappé par le parallélisme entre les affirmations de ce texte et celles de Chalcédoine. L'idée centrale est que si le Christ a deux natures, il a nécessairement deux volontés et deux opérations, c'est-à-dire deux actions concrètes, unies sans confusion ni séparation. L'enjeu, en affirmant les deux volontés, est de sauvegarder chez lui une vraie volonté humaine, car sa volonté divine n'a jamais fait de doute pour personne. Et il faut qu'il ait eu cette volonté humaine pour avoir, par le fait même, une liberté humaine. Deux exemples permettront de comprendre l'enjeu du débat. Le premier est emprunté à Jean 6, 38. Jésus déclare « Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Celui qui a envoyé Jésus, évidemment, c'est le Père. Et comme dans la vie trinitaire, il n'y a qu'une seule nature divine, Dans cette même vie trinitaire, le Fils de Dieu n'a qu'une même volonté avec le Père. Si donc Jésus déclare qu'il n'est pas descendu du ciel pour faire sa volonté, mais la volonté du Père, c'est parce qu'en prenant la nature humaine, il a pris aussi une volonté, une liberté humaine, distincte de sa liberté divine. Cela lui permet de vivre sa vie humaine dans l'obéissance au Père, alors que dans la vie trinitaire, il n'est pas question d'obéissance, puisqu'il n'y a pas de volonté distincte de celle du Père. Le deuxième exemple est encore plus probant, et aussi plus dramatique. Jésus est à Gethsémani, où on va venir l'arrêter. Sachant cela, il prie son Père, et il commence à ressentir effroi et angoisse. Alors, il ose une demande qui est matériellement le contraire de la volonté du Père. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Mais tout de suite, il se reprend. « Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Dans ce contexte hautement dramatique, on voit que le Seigneur Jésus ne se contente pas d'énoncer une vérité générale sur le but de sa venue sur la terre, faire la volonté du Père, mais qu'il doit réaliser un travail sur lui-même pour ajuster sa volonté humaine à ce que le Père lui demande. Ce travail, pour lui comme pour nous, se réalise dans l'espace et dans le temps. Sa condition tout au long de sa vie terrestre est une condition historique. Elle se déploie chez Jésus enfant dans l'obéissance à Marie et Joseph, il leur était soumis, nous dit saint Luc, qui est déjà une obéissance à Dieu par la médiation de ses parents terrestres. Elle s'accomplit dans la grande obéissance de la Passion, qui lui permet de racheter dans son « oui » au Père tous les refus et tous les reniements de l'humanité entière et de lui ouvrir l'accès à la vie bienheureuse avec Dieu. « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux, dit Jésus, que là où je suis, eux aussi soient avec moi. »